Chers amis, nous voulons ouvrir nos Bibles dans le livre de Daniel pour reprendre les 7 premiers versets qui introduisent cette histoire et nous ajouterons le verset 8 à notre lecture. Daniel chapitre 1er, versets 1 à 8. La troisième année du règne de Josachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Josachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel celui de Belshazzar, à Hanania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Nous avons donc, hier soir, dans notre étude d'introduction, fait du tourisme. Nous sommes allés rejoindre notre jeune ami Daniel et ses 3 compagnons dans cette gigantesque cité, cette mégalopolis impressionnante. La ville la plus grande du monde d'alors, Babylone. Et nous avons pu imaginer, hier soir, le choc qu'a dû être le face-à-face entre ce jeune homme de moins de 18 ans avec ses compagnons et cette cité. Cette cité que nous avons essayé de décrire rapidement sous ses 3 aspects dominants, les plus importants, à la fois tels qu'ils nous sont révélés dans les Écritures, mais aussi grâce aux historiens profanes de l'époque et grâce à l'archéologie, au cri des pierres qui résonne jusqu'à aujourd'hui, depuis le siècle dernier. Orgueil des réalisations prestigieuses, avons-nous dit, capitale de l'occultisme mondial qui revient comme jamais dans l'histoire jusqu'à nous, dans un véritable raz-de-marée, mais raz-de-marée qui va chercher son origine première, sans doute très tôt dans l'histoire de l'humanité, à l'époque déjà de la tour de Babel. Et puis enfin, violence et corruption, liées à l'idolâtrie, à la prostitution sacrée, à tout ce qui a fait la corruption de toutes ces grandes cités antiques, comme Babylone. Nous voulons faire, dans cette première partie de l'après-midi, nous voulons faire un pas de plus et considérer la résolution de Daniel qui figure au verset 8, nous l'avons volontairement ajouté cet après-midi, au reste du texte, cette résolution de Daniel dans son cœur. Elle nous occupera directement dans la seconde partie de notre étude et normalement ce soir, mais au préalable, nous voulons essayer de voir comment Daniel et ses compagnons n'ont pas réagi, par contraste. Peut-être pour mieux nous identifier à Daniel. Daniel et ses compagnons ne renient pas pour autant leur foi. Dans ce choc culturel, religieux, philosophique, politique, économique, ces quatre jeunes gens auraient pu renier leur foi. Elle était solide. C'était plus que de la croyance. Voilà des jeunes gens qui refusent de se laisser impressionner par ce nouveau système imposant, brillant, puissant, savant. Ils auraient pu prêter l'oreille au menteur, celui qui pouvait leur souffler, vous savez, votre petit Dieu de Jérusalem est démodé. Il est dépassé dans un monde nouveau dont vous faites la découverte, qui évolue dans le domaine économique, scientifique. Daniel et ses compagnons ne sont pas décomplexés. Ils ne sont pas des honteux de Dieu. Ils se refusent au complexe de certaines minorités. Et aussi bien au Québec qu'en France, où les évangéliques représente une si petite fraction de la population, il est si facile de céder à ce complexe des minorités. Daniel et ses compagnons sont là pour nous rappeler que la vérité n'est pas forcément dans la majorité. Et qu'hélas, dans le monde moderne, elle est même rarement du côté de la majorité. Ils auraient pu aussi sombrer dans la passivité, dans l'amertume, dans le défaitisme. Ils auraient pu subir simplement, passivement, leurs nouvelles conditions. Ils auraient pu s'installer dans une sorte de résignation, de fatalisme. Ce qui m'interpelle, c'est que Daniel et ses compagnons se sont refusés à être simplement le jouet du temps et des circonstances. Parce qu'il arrive que une minorité complexée s'installe dans la majorité silencieuse. Et il est si facile aujourd'hui de se couler dans ce que j'appellerais le moule de Monsieur Tout-le-Monde, de faire simplement comme les autres. On se sent si petit, si faible, si fragile. On a le sentiment d'avoir si peu de prise sur l'événement aujourd'hui. À l'autre extrême, Daniel et ses compagnons se sont refusés à réagir avec violence. Nous l'avons dit, ce sont des jeunes de moins de 18 ans. Ils sont à un âge crucial de la vie. De surcroît, ils ne sont qu'une petite poignée de déportés. Et nous les avons vus hier soir, qui pouvaient se poser bien des questions. Pourquoi moi? Pourquoi nous? Cette petite poignée. Nous avons laissé un tas de camarades, un tas d'amis, de membres de notre famille au pays. Seigneur, pourquoi moi? Et peut-être que dans le cadre de cette conférence, il y a aussi parmi nous des amis qui crient, je ne sais pour quelle raison, qui crient au Seigneur, pourquoi moi? Et qui sont tentés de se révolter parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas responsables de la situation dans laquelle ils sont plongés. Ce sont d'autres personnes qui ont choisi pour eux. Peut-être leur famille, leurs parents. La société, comme on dit. Et dans ces moments-là, on est tenté par toutes sortes de formes d'agressivité. Et j'aime Daniel, parce que Daniel, nous aurons l'occasion de le redire demain matin. Daniel n'est pas un agressif. Il n'est pas pour la révolution violente. Certes, il est pour une révolution, mais il est pour une révolution sans barricade. Enfin, ils ne se sont pas installés dans la dépression, dans l'angoisse qui broie du noir. On se referme sur soi, on s'isole, on meurt à petit feu dans sa coquille, sans espoir. Tout cela, c'est ce qui guettait Daniel et ses compagnons. Ce qui me frappe, c'est que Daniel a tout d'abord accepté sa nouvelle situation. Ce n'est pas un concept psychologique. C'est un concept biblique. Et je vous pose de la part de Dieu la question, est-ce que vous acceptez votre situation? Est-ce que vous acceptez de vivre en 1990 dans le pays où vous êtes, dans la province où vous êtes, dans le village ou la ville où vous êtes, et dans votre situation présente? Alors que vous n'êtes peut-être pour rien dans un certain nombre de choix qui vous ont amené dans votre situation présente. Il accepte. Il accepte sa nouvelle situation tout en réagissant sainement. Daniel n'est ni conformiste, ni anti-conformiste. Et j'aimerais fortement le souligner cet après-midi. Dieu ne nous demande pas d'être des anti-conformistes et de sortir nos griffes. Il arrive qu'il n'y ait pas seulement un tigre dans le moteur, mais dans notre cœur. Nous sommes appelés, selon les Écritures, à être des non-conformistes. Et c'est tout un équilibre, reconnaissons-le, tellement difficile à vivre. Et nous allons voir ensemble, nous allons développer d'ici demain matin cet équilibre du non-conformisme. Daniel et ses compagnons acceptent le schéma, la situation qui leur est imposée. Pas de révolte, pas de résignation. Daniel arrête dans son cœur, dit littéralement le texte, nous y reviendrons, de rester fidèle à Dieu et de le servir. Et la question qui s'est posée à moi dans l'étude de ce texte est celle-ci, mais comment est-ce possible? nous aurions pu brûler les États et entrer tout de suite dans une analyse en profondeur de ce verset 8, qui est la plaque tournante de l'ensemble du livre de Daniel. Disons-le tout de suite, nous l'expliquerons. Mais nous n'avons pas le droit de brûler les feux. Et il faut que nous évoquions courtement, trop courtement certainement cet après-midi, un point au préalable. Comment est-ce possible? Comment peut-on réagir sainement dans le monde moderne et en temps de crise de surcroît? Eh bien, pour cela, il faut remonter en arrière dans le temps lorsqu'on évoque l'histoire du jeune Daniel. Il faut remonter au temps de sa naissance. Parce que la naissance de Daniel remonte au dernier temps du règne d'un de mes grands amis, le roi Josias. Josias n'était pas n'importe qui. Il avait derrière lui un père et un grand-père qui ont été des personnages odieux. Manassé, son grand-père, a été le roi le plus abominable que le royaume du Sud, que Juda, ait porté. Il fut l'équivalent au Sud de ce qu'était Akab dans le royaume du Nord bien des années auparavant. Et c'est à cause de Manassé, en particulier, qu'Israël ne s'est jamais redressé de son état de décadence et de prostitution croissante. Manassé l'a plongé au fond de gouffres épouvantables de désordre, de péché, dont le peuple ne s'est plus jamais relevé. Faut-il dire simplement au passage que de la même manière que Akab s'est humilié au sein de son péché, lui qui fut le roi le plus abominable du royaume du Nord, Manassé, lui aussi s'est humilié. Et ces deux rois, tellement abominables, ont connu dans leur vie le pardon de Dieu. La grâce, la générosité inouïe de Dieu à cause du sacrifice de Jésus-Christ qui allait avoir lieu bien plus tard. Il y a eu ensuite, après Manassé, Amon et puis enfin Josias. Josias, d'ailleurs, sera succédé par Joachim, son fils. Et Joachim n'a pas du tout été de la même étoffe. Vous remarquez, à travers l'histoire de ces rois, je viens d'évoquer, nous aurions pu partir d'Ézéchias, le père de Manassé, un bon roi, Manassé un mauvais roi, Amon un mauvais roi, Josias un bon roi, Joachim un mauvais roi, de quoi nous rappeler que Dieu n'a pas de petits-enfants. Et qu'on peut exceller dans la marche avec Dieu, comme a excellé Ézéchias, comme a excellé Josias. Et pourtant, avoir des successeurs, même parmi ses enfants, qui marchent sur des voies tellement opposées à celles des parents. Josias a vécu dans sa vie un réveil. Un réveil personnel, dû à la, en particulier à la redécouverte, très
très certainement du rouleau du Deutéronome. Quand il a fait entreprendre tout ce travail de réforme, de dépoussiérage, de nettoyage du temple, on a donc découvert très certainement ce qui était le rouleau du Deutéronome. Et Josias a été bouleversé dans sa recherche de Dieu, parce que Josias était un roi selon le cœur de Dieu, qui cherchait Dieu de tout son cœur. Josias a été bouleversé par tout ce qu'il a découvert dans ce rouleau du Deutéronome. Peut-être même s'est-il terriblement senti repris, parce que dans Deutéronome 17, versets 18 à 19, il est dit que tout nouveau roi devait, dès son entrée en fonction, copier le rouleau du Deutéronome et y lire chaque jour de sa vie. Et très certainement, dans cette période de terrible décadence, Josias n'avait pas pratiqué la chose. La découverte était d'autant plus forte pour lui. Et il s'est humilié, il a déchiré ses vêtements et le vêtement de son cœur. Et Dieu lui a parlé, Dieu l'a visité. Dieu s'est servi d'une prophétesse, Hulda, pour s'adresser à son serviteur. Et à cette époque, Daniel était en train de naître. Il était peut-être dans ses premiers vagissements de nouveau-né. Et il a grandi, là, dans cet environnement, parmi les familles des grands, des dignitaires, à l'ombre des robes de la royauté, de la sacrificature et des prophètes. Et il a connu autour de lui une équipe d'hommes et de femmes qui étaient des passionnés de Dieu, des chercheurs et des chercheuses de Dieu. Il y avait Josias, mais il y avait aussi Sophonie, il y avait la prophétesse Hulda, il y avait le prophète Jérémie qui avait déjà derrière lui un certain temps de ministère depuis 627 avant Jésus-Christ. Toute une équipe d'hommes et de femmes absolument passionnés, aimant la parole de Dieu et ayant soif d'aligner leur vie pratique de tous les jours sur la parole de Dieu. Au point d'ailleurs que dans 2 Rois 23, verset 25, Dieu nous dit qu'avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Selon toute la loi de Moïse et après lui, il n'en a point paru semblable. Entre parenthèses, quel contraste entre Josias et Joachim. Il est un épisode dans le livre du prophète Jérémie très suggestif à cet égard. Il s'agit du chapitre 36 où Baruch, le secrétaire de Jérémie, est chargé de lire le livre des prophéties de Jérémie prononcées durant quelques 23 ans, je crois, ou à peu près. Il est chargé de lire ce livre des prophéties qu'il vient de rédiger dans la maison de l'Éternel. Les chefs du peuple en prennent connaissance, ils sont saisis d'effroi à l'écoute de ce message. Ils vont donc vers le roi Joachim qui en prend connaissance, et le texte nous dit que Joachim sort un petit canif et simplement coupe morceau après morceau du rouleau de la parole de Dieu et le jette dans le feu qui est allumé à proximité. Deux attitudes tellement différentes. D'un côté, cette passion pour la parole de Dieu
cette recherche de Dieu, communicative. Et de l'autre, au contraire, ce mépris des Écritures,
qui a engendré, d'ailleurs, nous le voyons au début de ce chapitre premier, les questions de Joachim, le Seigneur livra entre ses mains Joachim.
C'est l'aboutissement normal, face à tout mépris de la parole de Dieu.
Alors je tenais à souligner cette dimension. Cette manière dont le jeune Daniel et ses compagnons ont été marqués par la passion de leur entourage, de quelques aînés qui vivaient autour d'eux et qui aimaient la parole de Dieu. Et si je le souligne, c'est pour lancer un défi à ceux et celles qui parmi nous sont des parents qui se réclament de Jésus-Christ, des anciens, des diacres, des responsables d'école du dimanche, de clubs de jeunesse. Mes amis, est-ce que nous réalisons l'impact que notre témoignage peut avoir sur nos enfants? Daniel a moins de 18 ans dans cette histoire et marqué par ce qu'il a vécu dans son enfance. Et comme je le soulignais hier soir, y a-t-il un lieu mieux indiqué que le camp Brochet pour dire ces choses? Quand on pense à toutes les petites têtes blondes et brunes qui passent ici d'année en année pour entendre la parole de Dieu. Nous qui connaissons le Seigneur Jésus-Christ depuis un certain nombre d'années, essayons de repartir en arrière dans le temps. Et essayons de réfléchir devant Dieu à ces quelques hommes, peut-être, et quelques femmes qui ont croisé notre chemin, si nous nous sommes donnés à Christ dans notre enfance ou dans notre adolescence, et qui ont marqué notre vie parce qu'ils étaient des passionnés de Dieu et de sa parole. Au moment où je vous le dis, je pense avec une certaine émotion et beaucoup de gratitude à ces quelques hommes et quelques femmes de Dieu qui ont marqué mon enfance et mon adolescence, qui ont fait battre mon cœur très fort à leur contact, en les voyant vivre et en les entendant, je n'avais qu'un seul soupir, c'est d'être comme eux, d'être animé du même souffle, du même amour pour la parole de Dieu. Je me disais en les voyant, mais ils sont tellement convaincus. Leur vie a été tellement touchée. Je bénis Dieu de ce qu'ils étaient atteints d'une maladie véritablement contagieuse dans leur amour pour la parole de Dieu. Oh Dieu, veuille que jusqu'à son retour, et nous l'attendons, il y a des Daniel qui se lèvent. Mais vous savez, les Daniel, ça se prépare. Et ça se prépare dans le creuset de la vie des adultes qui connaissent déjà le Seigneur. Mais bien-aimés, sommes-nous des passionnés de la parole de Dieu? Sommes-nous de ceux qui se placent sur le terrain de la Bible? Daniel avait un point de repère sûr pour comprendre la situation dans laquelle il vivait, les problèmes de son temps. Il semble, le texte ne nous le dit pas, mais à voir l'aplomb de la résolution de Daniel au verset 8, il semble que Daniel et ses compagnons ne soient pas surpris par ce qui leur arrive. Il y a même un indice très intéressant, c'est que
La première mention de Dieu dans le livre de Daniel est au verset 2. Et que nous est-il dit au verset 2 ? Le Seigneur livra entre ses mains Joachim. Le Seigneur livra. Comme si Dieu voulait nous interpeller, nous secouer en nous disant, mais ta situation en 1990 n'est pas une erreur. Dieu n'est pas dépassé par les événements.
L'état du monde, les circonstances traversées par le peuple de Dieu ne sont pas la preuve que Dieu n'existe pas.
Ce qui me frappe dans l'histoire de Daniel, et j'y pensais ce matin pendant notre culte. Ce qui me frappe dans la vie de ce jeune homme, c'est sa connaissance de Dieu. Regardez au chapitre 2. Après la réunion de prière du groupe biblique universitaire à Babylone. Verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Est-ce que nous réalisons que c'est un jeune homme de moins de 18 ans qui fait cette prière? Dans une situation si difficile, comme nous le verrons, il risque sa peau. Mais quelle prière! Quelle connaissance de Dieu! Du Seigneur, du Maître du temps et de l'histoire. Du Seigneur qui livra. De ce Dieu éternel. Commencement et fin de toute chose, souverain sur le temps, immuable dans le temps. De ce Dieu infini, de ce Dieu grand, en majesté, en puissance, que les cieux des cieux ne peuvent contenir, auquel, dit Daniel, rien n'est impossible, dont la souveraineté est absolue, notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Daniel affirme que Dieu sait tout. Sa science est parfaite. Il possède à fond la connaissance de l'histoire, avant qu'elle ait lieu. Et bien sûr, s'il en est ainsi, il peut donc aussi faire annoncer cette histoire avant sa réalisation. Vous savez que c'est cela la prophétie biblique. C'est l'histoire écrite à l'avance par le Dieu qui sait tout. Voyez-vous, il me semble que si l'adoration de nos cultes contenait cette richesse-là, liée à une vision beaucoup plus riche de Dieu, c'est vrai qu'il est essentiel dans nos vies personnelles et dans nos vies de communauté, de nous souvenir de ce sacrifice unique, stratégique de Jésus-Christ en notre faveur. Mais mes amis, je le crois aussi, notre adoration ne doit pas s'arrêter là. Elle doit aller plus loin. Et la qualité de notre adoration est liée à notre vision de Dieu. À notre vision de Dieu aujourd'hui et maintenant. À notre vision de Christ aujourd'hui et maintenant.
Parce que voyez-vous, comme quelqu'un l'a dit avant moi, les conceptions qu'un homme a de Dieu
détermine son attitude par rapport à l'heure dans laquelle il vit. Dites-moi quelle est votre vision de Dieu. Et je pourrai vous dire comment vous vous conduisez par rapport aux événements. C'est cela le soutien de David dans cette situation difficile. Daniel et ses compagnons ont compris que la montée de l'Empire babylonien, aussi bien que la déportation des Juifs, ce n'était pas une erreur. C'est pour cela qu'il ne s'est pas révolté. Et c'est pour cela aussi qu'il ne s'est pas résigné. Ce n'est pas une erreur. Ce sont des événements annoncés. Des événements prévus de longue date par les prophètes à cause du péché d'Israël. Et c'est pourquoi pendant des dizaines et des dizaines d'années, en tout cas pendant les 70 ans connus qu'a duré le témoignage d'adulte de Daniel, qui est mort largement nonagénaire, ce qui frappe, c'est que Daniel va s'appuyer sur la parole de Dieu tout au long de sa vie. Il sera un bien-aimé de Dieu, un homme pieux, un homme de prière et un homme de la parole de Dieu. Disons quelques mots, sans entrer dans les détails, de l'accomplissement de ces prophéties concernant le début du livre de Daniel, à savoir l'exil. Plus de 800 ans avant la déportation à Babylone, Moïse l'annonce déjà en termes généraux. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 28, verset 36, chapitre 31, verset 16 et 17. Bien sûr, ce sont des textes généraux qui n'évoque pas forcément une déportation en particulier, mais toutes les déportations et difficultés que le peuple a connues. Mais celle-là était dedans, 800 ans avant qu'elle ait lieu. Moins de 400 ans avant cette déportation, le roi Salomon, lors de la dédicace du temple, va l'évoquer en termes très directs. Regardez avec moi dans 1 roi 8, verset 46 à 51. 1 roi 8, 46 à 51. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont amenés, et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal, qu'ils reviennent à toi de tout leur cœur, de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs, qu'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie, vers la maison que j'ai bâtie à ton nom. Alors, exauce des cieux du lieu de ta demeure leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Et vous savez comment le chapitre 6 nous prouve que Daniel, serré d'une manière toute particulière sur son cœur cette prière de Salomon, et qu'il tournait ses regards dans la direction du temple de Jérusalem pour crier à lui tout en le louant trois fois par jour. Et puis, environ 120 années avant ces événements, vous avez une prophétie encore plus précise de la part d'Ésaïe. Dans Ésaïe 39, versets 6 et 7. Ésaïe 39, versets 6 et 7. Quel texte, chapitre 39, versets 6 et 7. Voici les temps viendront, où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison. Ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Et quand on sait que le terme eunuque était utilisé non seulement pour évoquer les gardiens du harem royal, mais aussi les hauts fonctionnaires à la cour royale païenne, alors le cœur du jeune Daniel ne pouvait que bondir à la lecture d'une telle prophétie. C'était pour lui. Il était directement concerné. Et puis Jérémie qui commence à prophétiser quelques 20 années avant la déportation de Daniel et qui interprète et explique les événements politiques à la lumière de Dieu et qui précise combien de fois dans le livre du prophète Jérémie la durée de l'exil, 70 ans, au point que notre ami Daniel, au chapitre 9, Daniel 9, dans les premiers versets, et Daniel 9 se situe, nous nous en rappelons, au même moment que Daniel 6, c'est-à-dire que le Daniel qui est allé dans la fosse aux lions, au chapitre 6, n'était pas un petit jeune homme, comme on le montre sur les images d'Épinal, vient des livres évangéliques illustrés, mais c'était un vieillard largement octogénaire. Et là, il nous est dit que la première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant, en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Voyez, Daniel est parti avec le premier groupe en exil, c'est-à-dire à l'aurore des 70 années dont il est question dans ce texte. Et lorsqu'il est en train de commencer cette prière du chapitre 9, la première année de Darius, ses 70 années sont presque écoulées. Il le sait. Il s'appuie sur les Écritures et dit, Seigneur, tu es le Dieu fidèle à ta parole. Tu as promis. Tu as annoncé. Maintenant, Seigneur, je viens auprès de toi avec mon peuple, parce qu'il faut que nous remplissions les conditions. Nous sommes coupables. Nous te demandons pardon et je m'associe au peuple pour te demander pardon. Seigneur, accomplis ta promesse. Reviens et fais-nous revenir vers toi. Voyez comment ce vieillard, quelques 70 ans plus tard, va se servir de ce levier de la parole de Dieu pour s'adresser humblement, mais avec hardiesse, à son Dieu. Daniel avait pris très tôt dans sa vie la décision de la fonder sur le roc de la révélation écrite de Dieu. Daniel sait interpréter les événements à la lumière des Écritures. Daniel sait se laisser guider humblement par cette parole. Alors il n'est pas surpris, il n'est pas écrasé, il n'est pas dominé par les circonstances. Mais il domine les circonstances. Il n'y a pas de flottement dans son attitude. Il n'y a pas de flou dans sa conduite, parce qu'il a un bon maître étalon. Il a un bon point de repère sûr, immuable, la parole de Dieu qui s'accomplit au pied de la lettre, parce que Dieu est fidèle et ne se contredit jamais. Comme je vous le disais en introduction, tout à l'heure, il n'était pas question que nous allions plus loin sans avoir posé ce préalable. J'ai fait une demande au Seigneur en venant au Québec, celle que je fais souvent dans tous mes voyages au long de l'année. Que vous puissiez oublier le personnage et peut-être même beaucoup des choses qu'il a prononcées. Mais Dieu veuille qu'une nouvelle passion J'ai fait une demande au Seigneur en venant au Québec. Celle que je fais souvent dans tous mes voyages au long de l'année. Que vous puissiez oublier le personnage et peut-être même beaucoup des choses qu'il a prononcées. Mais Dieu veuille qu'une nouvelle passion pour lui et pour sa parole se développe dans vos cœurs. Si cela a lieu, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Ma joie est toujours tellement grande lorsque quelqu'un m'écrit ou me dit « J'ai à nouveau une envie folle d'étudier la parole de Dieu comme jamais auparavant dans ma vie. » C'est le premier défi que je vous lance. Choisir Dieu dans le monde moderne, c'est choisir sa parole. Et c'est donner à sa parole la place qui lui revient. Et c'est étudier, lire la parole de Dieu, non pas pour devenir des grosses têtes, des grands connaisseurs, mais pour mieux entrer dans l'intimité de notre Dieu. Pour mieux connaître Dieu sur la face de Jésus-Christ. Parce que cela, alors, joue sur notre conduite de tous les jours face aux événements qui vont devenir de plus en plus difficiles, qui vont représenter des défis de plus en plus sérieux à tout disciple de Jésus-Christ, quel que soit le lieu, le pays dans lequel il habite. À l'occasion d'un voyage en Afrique il y a quelques années, j'ai pu visiter l'un des plus beaux musées nationaux de l'Afrique, peut-être le plus beau à Niamey au Niger. Et ce musée national de Niamey a une particularité. Il y a un mausolée dans ce musée. Et sous ce mausolée se trouve une dépouille. Non pas une dépouille humaine, mais un arbre. Mais un arbre qui est vénéré dans ce pays. Cet arbre, c'est l'acacia du Ténéré. J'ai longé ce désert du Ténéré en avion, en visitant des postes missionnaires de la Société internationale missionnaire. Et l'histoire de cet arbre m'a beaucoup intrigué. Oh, pour une raison toute simple. C'est que cet acacia a été jusqu'en 1973 le seul arbre pour tout un territoire de plus de 400 000 kilomètres carrés, c'est-à-dire les 4/5 de la France. Le Québec est beaucoup plus grand que cela. Mais enfin, je ne sais pas si vous représentez ce que sont 400 000 kilomètres carrés. Mettez un territoire presque aussi grand que le pays d'où je viens. Un seul arbre. Au cœur du désert du Ténéré. Un arbre qui était d'une telle importance pour les caravanes, qu'il figurait sur toutes les cartes géographiques. Et puis,
et ça c'est un peu humoristique,
et pourtant c'est vrai, en 1973, un camionneur, je ne vous dirai pas sa nationalité, un camionneur a eu la malencontreuse idée de le percuter. Un seul arbre, il y est passé. Et cet acacia a été renversé. Et il a donc été transporté sous ce mausolée. Et le fait qu'il ait été cassé a permis de chercher comment il se faisait que cet arbre était là. Alors on a creusé. On a creusé à 5 mètres, à 10 mètres, à 15 mètres, à 20 mètres, à 25 mètres, à 30 mètres. Et on a en tout cas réussi à descendre jusqu'à 33 mètres de profondeur. Jusque dans le lit d'une ancienne grande rivière qui parcourait cette région. Et là, on était au lieu de ses racines les plus profondes. Et on a compris. Maintenant, à la place de l'acacia, parce qu'il fallait que le paysage corresponde à ce qui est sur les cartes de géographie, on a simplement mis une espèce de d'arbre qui ressemble plus à un porte-manteau, une sculpture métallique couverte de graffiti, mais pour essayer d'aider les gens pour qu'ils ne se perdent pas. Il y a eu bien des drames d'ailleurs depuis dans cette région. Et l'histoire de cet acacia m'a interpellé. Parce que voyez-vous, nous pouvons être soit des acacias dans le ténéré de ce monde, soit des sculptures froides et métalliques. Tout est lié à la place que la parole de Dieu et que le Dieu de la parole occupe dans ma vie personnelle. Et de la part de Dieu, je vous pose la question cet après-midi simplement. Quelle place occupent les Écritures dans ta vie, mon ami? J'y ajoute et je termine avec cela. Une dernière histoire. Dimanche 7 décembre 1941. Et je m'adresse à ceux et celles qui s'y connaissent en histoire. J'ajoute même l'heure. 8h20 du matin. Grand événement qui, curieusement, se situe de ce côté de l'Atlantique, mais pas au Canada. Même pas d'ailleurs, non, il concerne, excusez-moi, un pays qui est de ce côté de l'Atlantique. Les États-Unis. Un triste événement. Lorsque les États-Unis connaissent le plus grand désastre militaire de leur histoire. En une demi-heure, les forces américaines du Pacifique basées à Pearl Harbor sur l'île d'Hawaï sont réduites à néant par les escadrilles japonaises. J'ai eu l'occasion de lire ce qui s'est passé pendant les mois qui ont précédé cet événement. Je ne vous dirai pas tout, mais je voudrais simplement tirer une leçon de ce qui a précédé. Et ce qui a précédé cet événement, c'est le combat politique entre deux hommes. L'un était à l'époque premier ministre, général d'infanterie, Tojo. C'est ainsi que nous le prononçons. Et Tojo voulait à tout prix la guerre avec les États-Unis. Il avait fait ses calculs, il pensait que qu'une grande gloire allait jaillir sur le pays du soleil levant si le Japon s'engageait dans cette guerre. Et il faisait absolument tout pour convaincre, de manière à ce que son plan soit accepté. En face de lui, dans l'opposition, un homme, un militaire, un amiral, le plus célèbre marin japonais de cette époque, l'amiral Yamamoto, il n'y a pas plus japonais que cela. Et Tojo et Yamamoto, pendant des mois, vont se livrer à un duel sans merci, avec beaucoup de respect. Mais Yamamoto, l'amiral, va dire, au sujet de Tojo, voyez-vous, j'admire notre premier ministre. C'est un homme de valeur. Il a un tempérament intrépide, il est brillant d'intelligence. C'est un bon patriote, mais je ne peux pas être d'accord avec lui. Parce qu'il y a une différence essentielle entre Tojo et moi. Voyez-vous, votre premier ministre n'est jamais sorti du Japon. Personnellement, depuis mon plus jeune âge, et c'est ce qui m'a conduit à mon poste d'amiral, j'ai navigué sur toutes les mers du monde. J'ai longé les États-Unis par leur côte atlantique et par leur côte pacifique, et j'ai vu la puissance de ce pays. Et je peux vous dire que nous pouvons effectivement remporter une victoire. Une bataille. Mais nous perdrons la guerre. Et vous savez que c'est ce qui s'est passé. Ce fut le 7 décembre 1941 une grande victoire pour le Japon. L'entrée en guerre des États-Unis dans ce grand conflit mondial. Mais quelques années plus tard, vous savez quelle était la riposte, terrifiante. Elle m'intéresse tout particulièrement puisque je suis né le jour où la bombe d'Hiroshima a explosé. Vous savez tout sur moi, n'est-ce pas? Ah, il vous reste à me dire quelle est la date. Alors je ne vous le dirai pas, mais je viens de l'entendre, parce que Dieu m'a doté d'oreilles qui me permettent d'entendre loin, le 6 août 1945. Pourquoi est-ce que je vous ai raconté cela dans notre conclusion? Il existe deux sortes de croyants. Nous l'avons vu au niveau de l'acacia du Ténéré et de sa sculpture froide métallique. Nous le voyons maintenant au niveau d'un général d'infanterie Tojo et d'un amiral Yamamoto. Trop de croyants aujourd'hui se confinent dans le petit Japon de leurs écritures. Ils ont une connaissance tronquée des écritures. Ils ont soigneusement sélectionné quelques petits desserts évangéliques. Ils se gavent des sucreries de la Bible sans réaliser qu'il faut respecter des règles de diététique quand on lit la Bible. Trop de sucreries, ça donne parfois le diabète ou le cholestérol. Nous n'avons pas le droit, en tant que disciples de Jésus-Christ, de vivre simplement dans le petit Japon de nos Écritures. Ou de tel ou tel aspect de la prophétie que nous chérissons par-dessus tout. Semblable à l'amiral Yamamoto, tel nous devons être. Avoir une connaissance de la parole de Dieu qui parcourt parcourt les Écritures d'année en année dans l'ensemble du territoire sacré. Et c'est ce qui explique la différence entre ceux qui de temps en temps remportent une petite bataille dans ce vaste conflit qui nous oppose à l'ennemi, mais qui connaissent des défaites terriblement cinglantes, et ceux qui acquièrent dans leur vie avec le Seigneur une stabilité, parce qu'ils plongent leurs racines dans l'ensemble du sol de Dieu, c'est-à-dire dans toutes les Écritures. Ça, c'est le défi que je vous lève cet après-midi. Et voyez-vous, c'est une des grandes clés de toute l'histoire de Daniel. Un enfant qui était tombé amoureux des Écritures au contact de ses aînés et qui ensuite, dans une situation de crise, pouvait réagir de la bonne manière parce qu'il construisait sa vie sur un solide fondement. Nous voulons prier. Seigneur, à qui d'autre irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle, mais tu les as toutes. Et tu veux nous expliquer dans toutes les Écritures ce qui te concerne. Nous reconnaissons, Seigneur, que toute l'Écriture est inspirée de toi. Seigneur, pardonne nos négligences. Nous nous laissons happer, séduire, aveugler, gagner, grignoter par tant de choses secondaires. Pardonne l'emprise de la télévision et de tant d'autres choses. Ô Seigneur, agis. Agis durant cet après-midi pour que nous choisissions bien et que nous persévérions dans le bon choix, comme Daniel l'a fait tout au long des années. Seigneur, continue à nous parler, bénis ce court moment de chant, prépare-nous à la seconde partie, renouvelle notre attention. Seul ton esprit peut le faire, mais nous te bénissons, parce que tu es non seulement le Dieu de Daniel, mais tu es aussi le nôtre aujourd'hui. Amen. Jésus-Christ.